de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
C'est Zeritak, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le Japon détecte une nouvelle épidémie de grippe aviaire et détruira 3000 canards. Kraken infecte des voyageurs de Pologne à Balikpapan. Le ministère de Marves révèle le plan de l'Indonésie pour faire du Kenya une plaque tournante des exportations africaines. La valeur du commerce bilatéral entre l'Indonésie et l'Inde atteint 30,37 milliards de dollars américains en 2022. Le ministre coréen des Affaires étrangères mentionne un grand plan pour promouvoir la culture indonésienne en Corée. Lors des visites de travail dans trois pays africains, Luhut a discuté de la coopération stratégique. L'Indonésie s'intéresse au potentiel économique de la réouverture de la Chine. Voici le journal complet. Environ 3000 canards seront abattus au Japon après la détection d'un nouveau voyeur de grippe aviaire dans un élevage de volailles de la préfecture de Saitama, au nord de Tokyo, a annoncé le gouvernement local jeudi. Cité Sputnik Oana, la déclaration a également affirmé que l'abattage d'environ 3000 canards à la ferme avicole était en cours et que les autorités locales avaient imposé une quarantaine sur le transport de volailles dans un rayon de 3 km. La désinfection des fermes avicoles et des équipements devrait être achevée le 29 janvier, selon ce communiqué. Comme tout tenu de la dernière épidémie, le nombre de poulets abattus au Japon cette saison est proche de 11 millions, ce qui est un record absolu au Japon. Le ministère indonésien de la Santé a signalé que la sous-variante Omicron Kraken ou XBB.1.5 a été détectée en Indonésie chez des voyageurs en provenance de Pologne lors de ses activités à Balikpapan dans l'est de Kalimantan. La chef du Bureau de la communication et des réserves publiques du ministère indonésien de la Santé, Siti Nadia Tarmizi, a déclaré jeudi à Jakarta qu'un seul cas de Kraken avait été signalé en Indonésie. D'après les rapports reçus par le ministère de la Santé, la variante a infecté le corps d'un citoyen polonais lorsqu'il fait les activités à Balikpapan. Cependant, il avait déménagé à plusieurs endroits. La sous-variante XBB.1.5 a été détectée en Indonésie le 11 janvier 2023 à l'aide de la méthode de séquençage du génome dans un laboratoire gouvernemental. L'agent à la coordination des investissements et de l'exploitation minière au ministère de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Marves, Septien Harioseto a révélé le plan d'Indonésie visant à faire du Kenya une plaque tournante des exportations africaines à l'avenir. Dans l'événement, les perspectives de la microfinance BRI 2023, qui est surveillée en ligne jeudi, Seto a déclaré que le Kenya est l'un des pays d'Afrique avec une économie assez développée. Non seulement cela, il s'avère que les pays d'Afrique de l'Est ont une communauté économique d'Afrique de l'Est. La communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, est une communauté économique régionale composée de 6 pays, à savoir la République du Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Congo, la Tanzanie et l'Ouganda, avec un PIB total de 41 milliards de dollars américains. Et l'Indonésie, comme pays maritime proche voisin, ont depuis longtemps établi un partenariat stratégique global dans les relations commerciales, culturelles, linguistiques et artistiques depuis plus de 2000 ans. Actuellement, ce lien se renforce de plus en plus dans le contexte politique et géopolitique et dans le domaine économique, défense et science. Cela a été transmis par l'ambassadeur de l'Indonésie et au Timor-Leste, Manoj Kumar Bakti, lors de la commémoration du 74e jour de la République de l'Inde à Jakarta jeudi soir. Dans le domaine du commerce, l'ambassadeur Manoj Kumar a indiqué que le commerce bilatéral total entre les deux pays en 2022 a atteint 30,37 milliards de dollars américains.
India and Indonesia signed a trade deal worth rupees 1 billion on the sidelines of trade.
L'Inde et l'Indonésie ont signé un accord commercial d'une valeur de 1 milliard de rupiah en marge d'une réunion ministérielle sur l'investissement commercial et l'industrie à Nusa Dua, Bali, qui a réaffirmé l'engagement des deux pays à atteindre le commerce bilatéral de 50 milliards de dollars américains dans le très futur proche. Je suis heureux de partager cette expo de novembre 2022. Le commerce bilatéral total entre les deux pays a atteint 30,37 milliards de dollars américains au cours des 11 premiers mois, selon les statistiques du département indonésien des statistiques, qui montrent une croissance de près de 60% du commerce bilatéral au cours de la même période en 2021. Dans son allocution, l'ambassadeur de l'Inde en Indonésie et au Timor-Leste, Manoj Kumar Bakti, a déclaré qu'en 2022 était une année assez importante pour l'Indonésie et l'Inde. En novembre, lors du sommet du G20 à Bali, le président indonésien Joko Widodo a cédé la présidence du G20 au premier ministre indien Sri Narendra Modi. En outre, a-t-il poursuivi, l'Inde avait proposé à l'Indonésie d'accueillir la prochaine conférence No Money for Terror, NMFT. La troisième conférence de NMFT s'est tenue à New Delhi en Inde en novembre 2022 et a discuté de divers aspects du financement du terrorisme, de la technologie et de la coopération internationale pour surmonter les défis de la lutte contre le financement du terrorisme avec 88 pays. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a déclaré que la coopération dans le domaine de la culture entre l'Indonésie et la Corée du Sud continue d'augmenter. En effet, en 2023, le gouvernement sud-coréen prévoit de promouvoir la culture indonésienne en Corée du Sud. Cela a été transmis dans des remarques virtuelles lors de la conversation matinale Indonésie-Corée à Jakarta, jeudi 26 janvier. L'événement a été organisé pour célébrer 50 ans de relations diplomatiques entre la République d'Indonésie et la République de Corée du Sud. Park Jin a exprimé son espoir à toutes les parties de participer à l'encouragement d'une coopération culturelle plurale entre l'Indonésie et la Corée du Sud.
One of my big plans for this year is to promote Indonesian culture in Korea.
L'un de mes grands projets pour cette année est de promouvoir la culture indonésienne en Corée. Et j'ai demandé à tous ceux qui assistent à la table ronde d'aujourd'hui d'encourager la coopération culturelle et des sens plus approfondis et plus larges entre nos deux pays. Park Jin espère également que la tenue d'une série de célébrations pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Corée du Sud pourra souligner l'importance de la coopération entre les deux pays et augmenter tout le potentiel existant. Le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a effectué des visites de travail dans trois pays d'Afrique, à savoir la République du Kenya, la République démocratique du Congo et le Zimbabwe, pour discuter de plusieurs questions stratégiques et de la coopération dans un certain nombre de domaines. La visite de travail qui s'est déroulée du 20 au 24 janvier 2023 comprenait des discussions sur la coopération dans les domaines de la santé, des mines, des infrastructures, de la transition énergétique, de la foresterie jusqu'au Forum des États archipélagiques et insulaires AIS. Il est mentionné lors d'une visite au Kenya, Luhut a rencontré le président kenyan William Samoei Ruto. Pendant son séjour au Congo, Luhut a rencontré le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean Michael. Au Zimbabwe, le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a rencontré le président de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Le joint à la coordination de l'investissement et de l'exploitation minière au ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Septien Haryoseto, a déclaré que l'Indonésie s'intéresse au potentiel économique de la réouverture des frontières chinoises. Dans l'événement perspective de la microfinance BRI 2023, qui est suivi en ligne, c'est expliqué jeudi que la réouverture de la Chine peut être utilisée car beaucoup de ses citoyens partent en vacances à l'étranger avant que l'Indonésie puisse saisir ce potentiel. La Chine a rouvert ses frontières aux visiteurs internationaux dimanche 8 janvier pour la première fois depuis mars 2020. Les autorités chinoises libèrent également leurs citoyens à l'étranger à diverses fins, bien que plusieurs pays comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et les membres de l'Union européenne aient imposé des restrictions à l'arrivée des citoyens chinois. L'Indonésie est ouverte aux touristes de tous les pays, y compris les touristes chinois. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « La guerre russo-ukrainienne ne montre aucun signe de fin pour le moment. Vous êtes avec moi, Audrey. Serge Huitard, cela fait presque un an que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine le 24 février 2022. Cependant, jusqu'à présent, rien n'indique que les deux parties mettront bientôt fin à la guerre. Il semble que la guerre russo-ukrainienne durera longtemps. Conformément aux menaces de l'ancien président russe Dmitri Medvedev concernant la guerre nucléaire et aux décisions des États-Unis et de l'Allemagne d'envoyer des dizaines de chars de combat en Ukraine. Les États-Unis enverront 31 chars de combat M1 Abrams en Ukraine, tandis que l'Allemagne autorisera la livraison de 14 chars Léopard 2 à 6. Dans l'ensemble, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède enverront des centaines de chars et de véhicules blindés lourds pour fortifier l'Ukraine alors qu'elle entre dans une nouvelle phase de la guerre et tenta de percer les lignes russes. Cela a bien sûr déclenché la colère russe. L'ancien président russe Dmitri Medvedev a récemment averti l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant que la défaite de Moscou en Ukraine pourrait déclencher une guerre nucléaire. Medvedev, qui est vice-président du Conseil de sécurité russe, a souligné que les puissances nucléaires n'ont jamais perdu dans les conflits majeurs. Medvedev a également déclaré que les alliances militaires et les autres leaders occidentaux de la défense devraient peser les risques de leur politique. Il a souligné que la défaite des pays nucléaires dans une guerre conventionnelle pourrait déclencher une guerre nucléaire. Le Kremlin n'a pas tardé à soutenir la déclaration de Medvedev, affirmant qu'elle était pleinement conforme aux principes de Moscou. La déclaration de Medvedev a immédiatement été critiquée par le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, Jens Stoltenberg. Selon Stoltenberg, la rhétorique nucléaire de la Russie est totalement irresponsable et dangereuse. Il a déclaré que la Russie devrait savoir qu'une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée et qu'elle ne devrait donc pas avoir lieu. Stoltenberg a également souligné que l'OTAN continuera de surveiller ce que fait la Russie et réagira si nécessaire. La guerre russo-ukrainienne, qui a également entraîné l'implication des membres de l'OTAN, a fait des milliers de morts, perdu d'innombrables biens et a eu un impact sur l'économie mondiale, couplé à la pandémie qui a frappé le monde. Rendre une situation déjà mauvaise sera bien sûr encore pire. Sun Tzu, un général militaire chinois qui a vécu entre 544 et 496 avant Jésus-Christ, connu à travers son livre « L'art de la guerre », a dit un jour « Il n'y a aucun exemple d'un pays bénéficiant d'une guerre prolongée ». Cette remarque est très pertinente pour ce qui se passe actuellement. La Russie et l'Ukraine et leurs partisans doivent comprendre qu'une guerre, et encore moins une guerre prolongée, ne fera que nuire à toutes les parties, pas seulement ceux qui se battent, peu importe qui gagne, mais aussi d'autres pays partout dans le monde en ressentiront les effets. Bon, cher Joïtar, c'est tout le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 27 janvier 1973, et l'accord de paix de Paris met officiellement fin à la guerre du Vietnam. Ce jour-là, le gouvernement de la République démocratique du Vietnam, la République du Vietnam et les États-Unis, ainsi que le gouvernement révolutionnaire provisoire, représentant les révolutionnaires du Sud Vietnam, ont signé un accord pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix au Vietnam. Les principaux négociateurs de l'accord étaient le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, André Alfred Kissinger, et les membres du Politburo vietnamien, le Duc Tho. Ils ont tous deux reçu le prix Nobel de la paix pour leurs efforts, bien que le Duc Tho ait refusé de l'accepter. Le 27 janvier 1981, le bateau à moteur à passagers KMP Tampomas a coulé dans la mer de Java. 431 personnes sont mortes. Le bateau à moteur à passagers KMP Tampomas est un navire à passagers appartenant à PELNI, ce transport maritime national indonésien qui a subi un incendie et a coulé autour des îles Masalimbo, dans la mer de Java. Le navire, commandé par le capitaine Abdul Rifai, voyageait de Jakarta à Sulawesi et a coulé le 27 janvier 1981. Cet accident a causé la mort de centaines de passagers à bord du navire. Le 27 janvier 2008, le deuxième président de l'Indonésie, Suharto, est décédé. Après avoir subi un traitement à l'hôpital central de Pertamina pendant 23 jours, Suharto a été déclaré mort le 27 janvier 2008 vers 1h de l'après-midi. Auparavant, l'équipe de médecins présidentiels avait annoncé que l'état de l'ancien président Suharto était très critique. Sa respiration était peu profonde et 100% avait été prise en charge par un respirateur. Suharto a été déclaré mort en raison d'une défaillance de plusieurs organes. L'annonce officielle de la mort de Suharto a été faite par l'équipe de médecins présidentiels avec les filles de Suharto, Siti Hardianti Rukmana et Siti Hediati Haryadi. Suharto est décédé à l'âge de 86 ans et a été enterré à Astana Giribangun, Matesi Karanganyar, Java Central. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Tanpa batas, tanpa balas.
menjelma cahaya di angkasa yang sulit tertampi dan suka tergapai.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre... La qualité des ressources humaines est la clé pour accroître la compétitivité de la nation. Tous les pays sont actuellement en concurrence pour les investissements et les technologies de pointe. Cela a été transmis par le président Joko Widodo lors de la réunion de travail national pour la stratégie de développement familial, la population et la planification familiale et le programme pour accélérer la réduction du retard de croissance à Jakarta, mercredi le 25 janvier, comme rapporté par l'agence de presse Antara. Selon le président, non seulement au niveau mondial, lors d'une réunion des pays contrôlant 85% de l'économie mondiale au Forum du G20, les pays voisins de la région de l'Asie du Sud-Est se livrent également une concurrence féroce pour les investissements et la technologie. Le président Joko Widodo a souligné que l'amélioration de la qualité des ressources humaines est une clé importante pour accroître la compétitivité de la nation afin qu'elle puisse attirer les investissements et développer la technologie. En raison de l'importance de la qualité des ressources humaines indonésiennes, le président a demandé à l'Agence nationale de la population et de la planification familiale, BKKBN, de s'acquitter correctement de ses fonctions en maintenant une croissance équilibrée et en améliorant la qualité des familles. Le président Joko Widodo admet que construire une famille de qualité n'est pas facile. Mais il pense que les 1,2 million de conseillers du BKKBN et leurs compagnons sont capables de le faire. Il expliquait que le retard de croissance avait un impact sur la faible capacité des enfants d'apprendre, le retard mental et l'émergence de maladies chroniques chez les enfants. En plus de rappeler les dangers du retard de croissance chez les enfants, le président souhaite que toutes les parties travaillent ensemble pour résoudre le problème du retard de croissance en Indonésie. Le président a ajouté que le gouvernement indonésien compte sur les investissements pour maintenir la tendance à la reprise économique en 2023. Le président Jokowi a fixé un objectif d'investissement pour 2023 pour atteindre 1 400 millions de rupiah ou une augmentation par rapport à 2022 qui s'élevait à 1 200 millions de rupiah. Avec un soutien à l'investissement, l'Indonésie cible une croissance économique de 5,3% en 2023. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
You should know.
know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I knew you were the one inside.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Aujourd'hui je vous présente Bubur Lombok, bouillie de Lombok, avec moi Audrey. Serge Huitter, en visitant la régence Lingga dans les îles Riau, vous devez goûter aux spécialités culinaires malaises à base de sagu comme l'ingrédient principal. Lingga est un producteur de sagu dans les îles Riau depuis l'époque du sultanat Riau, Lingga de Johor Bahru qui a été développé par le sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II, le sultan Lingga de Riau. Il existe une variété d'aliments à base de sagu que vous pouvez essayer, tels que le cochon de sagu, les assiettes de sagu, le lambo et la bouillie de Kepurun. Parmi les différents types d'aliments de sagu, nous vous présenterons l'un d'entre eux, à savoir la bouillie Lambok. Cette bouillie a été désignée patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie en 2018. Chers amis, le bouilli de Lambok est fabriqué à partir de sagu cuit avec des légumes tels que des feuilles de griffe, du basilic doux, des épinards à griffe douce, des feuilles de curcuma, des feuilles d'arachide, des feuilles d'ongle, etc. ainsi que diverses épices qui ont été écrasées telles que des échalotes, de l'ail, feuilles de curcuma, céleri et poivre. Cette bouillie est généralement consommée au petit déjeuner ou également utilisée comme substitut du déjeuner car elle est racinante. Et maintenant, Lambok porridge ou bouillie de Lambok est également souvent servi lors de la réception d'invités de l'extérieur de la région et de l'État qui viennent à la régence Lingga. Le bouilli de Lambok aura meilleur goût lorsqu'il sera servi chaud. Pas seulement délicieuse pour la plupart des habitants de la région Lingga, la bouillie de Lambok est également considérée comme un médicament naturel, comme le médicament bouilli. Pour eux, la bouillie de Lambok a aussi sa propre signification, à savoir l'harmonie, la complémentarité et comme antidote. Vous pouvez trouver la bouillie de Lambok dans divers endroits de Lingga. Le prix est relativement bon marché, autour de 10 000 à 20 000 de roupies par portion. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Boy V. Let's get it.
Yeah, I felt that when I met you. Finally I found her. Everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Matt told you, it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show, I make her buddy blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin'. We rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it. Yeah, she's the one, yo. I guess you find your love now. We're out.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Une autre fière réalisation a été réalisée par un fils de Nusa Tenggara orientale ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, une autre fière réalisation a été réalisée par les enfants du pays sur la scène internationale. César Archanges Hendrik Meo Tununai, un élève de deuxième année du primaire de Nusa Tenggara Oriental, NTT, qui a remporté la première place au concours mondial international de Boulier 2022. Le concours mondial international de Boulier 2022 est un concours de mathématiques et de Boulier de classe mondiale organisé par International Abacus Brand Gym ABG. L'étudiant qui s'appelle familièrement Nono a réussi à battre 7000 autres participants du monde entier. Il était le seul étudiant indonésien à avoir pu atteindre la première place du concours depuis la création de la BG en 2003. Dans l'événement, Nono a eu l'occasion de démontrer ses capacités en mathématiques. Il a été invité à répondre aux questions posées oralement par le jury. Nono a pu répondre à toutes les questions rapidement et précisément en quelques secondes. Lors du concours mondial de mathématiques, Nono a réussi à compléter 15 201 fichiers. Dans un fichier, il y avait 10 questions, dont le total des questions sur lesquelles Nono a travaillé à un an été de 152 010 questions qui ont été testées sous forme virtuelle et écoutées en anglais. Chers amis, pendant ce temps, le deuxième gagnant a été remporté par un participant du Qatar qui a travaillé sur 7500 de fichiers ou 75 000 20 questions, seulement la moitié des questions que Nono a réussi à résoudre. Et le troisième gagnant des États-Unis qui a travaillé sur 6138 fichiers ou 61 380 questions. L'événement s'est terminé par la remise d'un prix du fondateur d'Abacus Brand Gym USA à Nono sous la forme d'un trophée, d'un certificat et d'un prix en espèces de 200 de dollars américains. En plus de remporter des compétitions de classe mondiale, Nono a également remporté l'Olympiade de mathématiques internes de l'école Astra Forcer. Bon chargé d'art, c'est tout, l'Indonésie en couleur. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Denganmu menikmati nanti hatiku. Jangan rusak organ dalam bedu. Oh. Terima kasih malah kau dari siang setiap hari. Ku suka, ku nyaman berjumpa berdua denganmu, menikmati nada yang kita rangkai bersama.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson Java occidentale intitulée Banyu Kali. Chers auditeurs, cette chanson raconte les sentiments d'une femme qui aime un homme depuis longtemps, mais elle ne peut pas exprimer ses sentiments et que l'amour est comme une rivière qui coule en amont et qui, si elle est barrée, peut provoquer une inondation. Bon, chers auditeurs, voici Dini Aditama va chanter une chanson de Java occidentale intitulée Banyu Kali ou l'eau de la rivière. Bonne écoute.
Yeah.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.